La souffrance de ne pas être cause. Au-delà des ambiguïtés, presque tous les témoignages se rejoignent sur un point. Le pire, quand on a un job à la con, c'est d'être parfaitement conscient que ce n'est que du pipeau. Comme nous l'avons vu au chapitre 3, une grande part de notre sentiment d'être soi, d'exister en tant qu'être distinct de son environnement, s'enracine dans le moment où nous découvrons avec une joie indicible notre capacité à influer de manière prévisible sur ce qui nous entoure. C'est vrai des nourrissons, et ça le reste tout au long de notre vie. Confisquer cette joie à un humain, c'est l'écraser comme un insecte. Bien entendu, on ne peut retirer totalement à un être sa faculté à affecter son environnement. Dans une certaine mesure, réorganiser son sac à dos ou jouer à fruits Mahjong, c'est encore agir sur le monde. Mais la plupart des habitants de la planète, en particulier dans les pays riches, ont appris à considérer leur job comme le principal vecteur de leur impact sur le monde et le salaire qu'ils reçoivent en échange comme la preuve de l'effet produit. C'est pourquoi, quand vous demandez à quelqu'un « Et sinon, qu'est-ce que vous faites ?», il supposera toujours que vous entendez par là « dans la vie ». Arriver dans un poste et découvrir après coup qu'on est payé à ne rien faire engendre une frustration intense sur laquelle ont insisté de nombreux témoignages. Charles a commencé à travailler dans le secteur des jeux vidéo dès la fin de ses études. Son premier boulot était testeur chez Sega. Mais il a bientôt été promu aux adaptations traductions. Là, il a découvert que ce n'était qu'un job d'astreinte classique. Il devait rester assis à faire semblant de bosser en attendant qu'un problème se présente, ce qui arrivait en moyenne une fois par semaine. À l'instar de Liliane, cette situation l'a conduit à mettre en doute sa propre valeur. Je me sentais complètement nul à travailler pour une boîte qui foncièrement me payait à rien foutre. Il a démissionné le jour où il s'est fait enguirlander par ses supérieurs pour être arrivé à la bourre. Ça lui a au moins laissé le temps de connaître un coup de foudre amoureux. Un mois plus tard, il a refait une tentative dans une autre boîte de jeux vidéo. Au début, il a cru que ce serait différent. Charles. En 2002, j'ai été embauché comme producteur associé chez une grosse boîte de jeux vidéo à Los Angeles. J'étais vraiment excité par ce job, parce qu'on m'avait dit que ça consisterait à rédiger le cahier des charges graphiques, c'est-à-dire ce document qui tente de concilier les désirs artistiques des dessinateurs avec les contraintes techniques des programmeurs. Les premiers mois, je n'ai strictement rien eu à faire. Ma grande mission quotidienne, c'était de commander les repas à emporter pour toute l'équipe. À part ça, aucun changement. J'étais le cul sur ma chaise à envoyer des mails. La plupart du temps, je rentrais chez moi tôt dans l'après-midi. Parce que pourquoi pas, merde. Pour occuper ces heures vides, je me suis mis à rêver de monter ma propre boîte. J'ai commencé à consacrer tout mon temps libre à la conception de mon site web. Le problème, c'est que le producteur qui était au-dessus de moi a fini par menacer de me dénoncer au boss. J'ai dû arrêter. Au bout de plusieurs mois, enfin, j'ai été autorisé à démarcher le boulot sur le cahier des charges des effets sonores. Je m'y suis jeté corps et âme. J'étais tellement content. Quand le truc a été bouclé, le producteur m'a dit de le télécharger sur le serveur commun pour que tous les collègues qui bossaient sur ce jeu y aient accès. Et là, ça a été le tollé. Le mec qui m'avait engagé ne s'était pas rendu compte que, à l'étage du dessous, il y avait un service spécifiquement dédié au son qui rédigeait les cahiers des charges pour tous les jeux. J'avais fait le boulot de quelqu'un d'autre. Comme le type avait déjà commis une grosse bourde de ce genre, il m'a demandé de porter le chapeau pour ne pas se faire virer. Ça me révoltait profondément. Mais un autre facteur pesait dans la balance. Pour mes potes programmeurs, c'était bien commode d'avoir au-dessus d'eux un incompétent qui leur laissait les mains libres. Ils ne voulaient pas qu'ils soient remplacés par quelqu'un qui commencerait à les brider. Du coup, eux aussi m'ont demandé de me sacrifier. J'ai dit « Ok, j'ai tout pris sur moi, démissionné le lendemain. Et après cela, je n'ai plus jamais bossé pour personne. » Voilà comment Charles a dit adieu à l'emploi salarié conventionnel. Depuis, il gagne sa vie en jouant de la guitare et dort dans sa camionnette. Dans la majorité des cas, le désœuvrement n'est pas aussi flagrant. Le salarié a un petit quelque chose à faire, mais il finit par comprendre, brusquement ou progressivement, que son boulot ne rime à rien. Or, pour un travailleur, en général, la valeur sociale de son activité compte vraiment. Quel que soit l'étalon implicite qu'il utilise, le fait de se rendre compte que son job ne poursuit aucun but aura des conséquences déterminantes sur son expérience, indépendamment même de la nature de l'activité et des conditions d'emploi. Évidemment, si en plus ces conditions sont pénibles, la situation devient intolérable. Intéressons-nous à un scénario extrême. Une tâche désagréable et manifestement inutile, effectuée dans de mauvaises conditions. C'est ce qu'a connu Nigel, travailleur intérimaire dans une boîte qui avait remporté un énorme marché, celui de la numérisation des bordereaux d'inscription pour des cartes de fidélité. Comme les scanners fonctionnaient mal et qu'une clause contractuelle imposait pas moins de 3 étapes de vérification avant validation, la compagnie devait acheminer tous les jours une petite armée d'intérimaires employés comme contrôleurs de données. Voici comment Nigel décrit son boulot. Nigel. Un tel niveau d'ennui est difficilement concevable. Ça confinait à la transe. J'en étais à dialoguer avec Dieu, à prier pour que le prochain dossier contienne une erreur, ou au moins celui d'après, ou celui d'encore après. En même temps, les heures défilaient rapidement, un peu comme dans une expérience de mort imminente. Il y avait quelque chose dans ce boulot qui soudait entre eux tous les contrôleurs de données. Cela tenait autant à son inutilité sociale pure qu'à l'austérité accablante des opérations. On savait pertinemment que c'était du foutage de gueule. Je crois vraiment que, si les inscriptions avaient concerné un domaine dont la valeur sociale était plus évidente, je ne sais pas moi, les transplantations d'organes, ou même les tickets d'entrée pour le festival de rock de Glastonbury, les choses auraient été différentes. Ce n'est pas que le processus aurait été moins fastidieux. Un formulaire reste un formulaire. Mais là, savoir que tout le monde s'en fichait éperdument, que quelle que soit la manière dont on faisait le boulot, cela ne changerait rien à rien, réduisait l'ensemble du truc à une sorte de test d'endurance, un peu comme si on participait aux Jeux Olympiques de la résistance à l'ennui, juste pour le fun. C'était vraiment bizarre. À un moment donné, avec quelques autres, on a atteint un point de saturation. On s'est plaint de la grossièreté d'un des superviseurs, et le lendemain, on a reçu un coup de fil de l'agence d'intérim disant que la boîte n'avait plus besoin de nos services. Heureusement pour eux, Nigel et ses collègues étaient des travailleurs temporaires. Ils n'étaient pas liés à l'entreprise par une quelconque forme de loyauté et n'avaient aucune raison de taire la réalité de la situation, du moins entre eux. Dans les emplois plus pérennes, en revanche, il est souvent difficile de savoir à qui l'on peut se confier. Quand pour certains l'absurdité de la tâche exacerbe le sentiment d'ennui, pour d'autres, elle est génératrice d'angoisse. Greg a travaillé 2 ans dans une agence de pub comme concepteur d'annonces numériques. Vous savez, ces bannières agaçantes qu'on voit sur tous les sites web. Sa conviction est que toute cette industrie n'est qu'une vaste arnaque. Les boîtes qui commercialisent ces bannières disposent d'études démontrant que les internautes ne les remarquent même pas et ne cliquent presque jamais dessus. Cela ne les empêche pas de truquer les chiffres, littéralement, ni d'inviter leurs clients à des raouts, aux frais de la princesse, pour leur exposer les preuves détaillées de l'efficacité de leurs annonces. Les pubs elles-mêmes n'ayant guère de portée, tout reposait sur la satisfaction des clients. Les graphistes étaient priés de cautionner leurs moindres caprices, qu'ils soient techniquement irréalisables, prétentieux ou simplement aberrants. Greg. En général, les gros clients voulaient que la bannière reproduise leur spot télé. Ils exigeaient des storyboards compliqués avec plein de scènes et de détails imposés. Par exemple, les constructeurs automobiles débarquaient en demandant qu'on utilise Photoshop pour modifier la position du volant ou déplacer le bouchon du réservoir à essence, le tout sur une image de la taille d'une vignette. Les graphistes tenus de satisfaire ces exigences ultra précises savaient pertinemment que pas un seul internaute ne discernerait ces éléments microscopiques dans une image mouvante aperçue du coin de l'œil. La situation était déjà intolérable pour Greg, mais la goutte d'eau, c'est quand il est tombé sur ses études démontrant scientifiquement l'inutilité totale des bannières. Là, il a commencé à développer de vrais symptômes d'angoisse clinique. Greg. Ce boulot m'a appris que l'absence de but aggrave le stress. Les premiers temps, je me donnais vraiment du mal sur ces bannières. Dès que j'ai compris que, grosso modo, ça ne servait à rien, toute patience s'est évaporée. C'est dur de dépasser une telle incohérence interne, de s'impliquer réellement dans un processus quand on se contrefiche du résultat. Finalement, le stress prenant des proportions alarmantes, il a démissionné et changé de boulot. Le stress. Voilà un autre thème récurrent. Les jobs à la con qui ne se résument pas à faire acte de présence, mais impliquent de s'échiner sur des projets dont tout le monde pense secrètement qu'ils sont futiles, accroissent la tension ambiante et provoquent même souvent des explosions d'agressivité arbitraire. Retrouvons Hannibal, celui qui gagne des sommes faramineuses en rédigeant des rapports que les labos pharmaceutiques brandissent fièrement lors de leur séminaire marketing, puis jettent à la poubelle. Il s'arrange en fait pour concentrer ses activités à la con sur un ou deux jours par semaine, juste ce qu'il faut pour payer les factures. Le reste de son temps, il le consacre à des recherches médicales visant à éradiquer la tuberculose dans les pays du Sud, une cause pour laquelle personne ne semble disposé à débourser d'argent. Il s'amuse à comparer les comportements dans ces deux environnements de travail. Hannibal. J'ai remarqué que le degré d'agressivité et de stress que manifestent les gens au travail est inversement proportionnel à la signification profonde de leur boulot. Par exemple, là où j'écris mes rapports à deux balles, j'entends ce genre de choses. « Putain, le client est en train de péter un câble. Ils sont sous pression. Il faut que la présentation soit prête lundi pour leur réunion programmatique de troisième trimestre. Si on ne leur livre pas demain matin, ils menacent de foutre en l'air le contrat. Pas le choix, on reste tous là ce soir pour boucler. Vous inquiétez pas, on va se commander des pizzas premier prix et de la bibine dégueulasse pour tenir toute la nuit. » À l'inverse, là où le travail a du sens, il y a une ambiance plus collaborative. Tout le monde œuvre en commun à un but plus grand que soi. Par ailleurs, les témoignages semblent indiquer que la cruauté et la guerre psychologique sont beaucoup plus répandues dans les bureaux où chacun sait, sans se l'avouer, que ce qu'il fait n'a aucun sens, même si, à vrai dire, elles sont présentes sur presque tous les lieux de travail. Nouri, le développeur informatique que nous avons déjà croisé, propose une analyse intéressante. Dans les bureaux où l'on est occupé à des tâches à la con, l'hostilité et la haine réciproques seraient tout simplement un moteur pour les employés. Il en a fait l'expérience dans une boîte qui concevait ces fameuses bannières publicitaires, probablement vouées à péricliter à brève échéance. Ce job l'a rendu malade et dépressif. Je m'emmerdais tellement que plusieurs programmeurs sont allés rapporter mon manque de productivité au directeur. Pardon. Dans le monde du développement, on l'appelle le Scrum Master. Celui-ci, très agressif, m'a donné un mois pour me reprendre et s'est appliqué à prouver que je négligeais les avertissements du médecin. En deux semaines, j'ai abattu plus de boulot que tout le reste de mon équipe réunie et l'architecte en chef de la boîte a déclaré que mon code était parfait. D'un seul coup, le Scrum Master est devenu tout sucre, tout miel, m'assurant que je ne devais pas m'inquiéter pour cette histoire de médecin. Je lui ai conseillé de continuer à m'insulter et à brandir la menace du licenciement s'il voulait que mes performances restent exceptionnelles. une petite pointe d'humour cynique. Bêtement, il a refusé. Moralité ? La haine est un moteur efficace, en tout cas en l'absence de toute passion et de tout plaisir. Cela explique peut-être une grande partie de l'agressivité au travail. Chercher des noises à quelqu'un, ça vous donne au moins une raison de rester. Voici un autre témoignage. Annie. J'ai travaillé dans une boîte qui s'occupait de négocier les tarifs des actes médicaux. J'étais censé faire partie d'une équipe spécialisée, chargée de fonctions diverses et variées, mais on ne m'a jamais donné la formation qu'il fallait. Dans les faits, mon boulot consistait à importer des formulaires depuis la base de données vers le logiciel de traitement, surligner quelques champs précis dans chacun d'eux, remettre les formulaires dans la base pour qu'ils soient traités par quelqu'un d'autre. Il régnait dans les bureaux une culture très rigide. Par exemple, on avait interdiction de se parler entre nous. Indéniablement, c'est l'un des environnements de travail les plus violents que j'ai connus. Au cours de mes deux premières semaines, j'ai fait une erreur récurrente en surlignant mes champs. Dès que je m'en suis rendu compte, j'ai rectifié. Mais cela n'y a rien fait. À compter de ce jour et jusqu'à mon départ de l'entreprise, chaque fois que quelqu'un tombait sur un de ces formulaires mal surlignés, on me prenait à part pour m'en parler. Je dis bien « chaque fois », comme si le problème venait d'apparaître. Comme si ma chef ne savait pas que tous ces formulaires dataient de la même période et que cela n'arrivait plus. Et bien que je lui réexplique « chaque fois ». Ces petits actes de sadisme devraient rappeler des souvenirs à quiconque a déjà travaillé dans un bureau. Que se passait-il exactement dans la tête de cette supérieure qui, jour après jour, convoquait Annie pour lui parler entre quatre yeux d'une erreur corrigée depuis des lustres comme elle le savait parfaitement? Oubliait-elle systématiquement que le problème avait été résolu? Cela paraît improbable. Son comportement a plutôt les apparences d'une pure démonstration de puissance pour le principe. Elle savait aussi bien qu'Annie que cela n'avancerait à rien de lui demander de réparer quelque chose qu'il avait déjà été. Mais l'absurdité même de l'exercice n'était qu'une manière de lui rappeler que leur relation reposait exclusivement sur l'arbitraire de son pouvoir. C'était un de ces rituels humiliants par lesquels le supérieur montre qui est le chef, au sens le plus littéral du terme, et remet le subordonné à sa place. Bien sûr, l'idée sous-jacente, c'est que ce dernier est de toute façon coupable de quelque chose, ne serait-ce que de désobéir en pensée ou de ruminer sa colère contre la tyrannie de son patron. C'est un peu comme lorsque des flics tabassent un suspect qu'ils savent innocent de ce dont on l'accuse et se justifient en affirmant qu'il est certainement coupable d'autre chose. Annie. J'ai tenu 6 mois, après quoi je me suis dit plutôt mourir que de continuer. Pourtant, c'était la première fois de ma vie que je touchais un salaire décent. Avant, j'étais institutrice en maternelle dans la région de Boston. C'était un très beau métier, mais je gagnais 8,25 $ de l'heure. Voilà qui nous invite à considérer un autre problème, les effets des jobs à la con sur la santé. Je n'ai pas d'éléments chiffrés, mais à en croire les témoignages, les maladies liées au stress semblent être un corollaire majeur de toutes ces situations. De multiples récits parlent de déprime, d'anxiété, voire de dépression nerveuse auto-immune, doublée de toutes sortes de symptômes physiques, comme ce syndrome du canal carpien qui a mystérieusement disparu dès que le job a pris fin. Annie aussi a vu son état empirer. Rétrospectivement, elle attribue cette dégradation au changement brutal d'environnement de travail qu'a impliqué sa réorientation professionnelle. Nous en avons discuté ensemble. David. J'essaie d'imaginer ce que ça a pu représenter pour vous d'être obligé de quitter un vrai boulot, prendre soin d'enfants et les éduquer, pour passer à quelque chose d'aussi totalement vain et humiliant, juste pour pouvoir payer le loyer. Vous pensez que beaucoup de gens sont dans le même cas? Annie. à mon avis, c'est extrêmement courant. On observe un fort turnover dans les professions où l'on travaille avec des enfants, car elles sont très mal payées. Il y a bien des gens qui, après avoir suivi une formation, se dirigent vers des postes plus rémunérateurs. Mais la plupart de ceux que j'ai vus abandonner ces jobs, majoritairement des femmes, finissent dans des bureaux ou des magasins. J'ai beaucoup réfléchi à tout cela. En fait, j'ai quitté un lieu où les contacts physiques sont permanents. On porte les enfants, on les prend sur son dos, on les berce pour qu'ils s'endorment, on se fait des câlins. Et je me suis retrouvé dans un environnement où les gens ne se touchent pas, évidemment, mais ne s'adressent même pas la parole. Je n'ai pas tout de suite pris conscience des effets sur mon corps. Pourtant, avec le recul, je me rends compte que cela a eu un impact énorme sur ma santé physique et mentale. Annie a raison, bien sûr, et ce qu'elle décrit ne fait qu'illustrer de façon spectaculaire une dynamique très courante. À ses yeux, non seulement son propre job ne rimait à rien, mais l'entreprise tout entière n'avait pas lieu d'être. Elle n'était qu'un des volets d'un gigantesque exercice de rafistolage visant à réparer en partie les dégâts causés par le système de santé américain, notoirement vicié. Bien entendu, au bureau, il était formellement interdit de discuter de tels sujets. Il était interdit de discuter tout court. L'isolement physique allait de pair avec l'isolement social. Chacun était contraint de devenir une petite bulle à lui tout seul. Ces environnements sociaux réduits au strict minimum et intrinsèquement inégalitaires produisent des phénomènes étranges. Dans les années 1960, Erich Fromm, psychanalyste de tendance radicale, a été le premier à suggérer que des formes non sexuelles de sadisme et de nécrophilie tendent à envahir la vie quotidienne au sein des milieux extrêmement puritains et hiérarchisés. Une trentaine d'années plus tard, la sociologue Lynn Chancer a repris certaines de ses idées et les a combinées avec celles de la psychanalyste féministe Jessica Benjamin pour concevoir sa théorie du sadomasochisme au quotidien. Chancer montre que, contrairement aux vrais adeptes des sous-cultures BDSM, parfaitement lucides sur le fait qu'ils jouent à faire semblant, les personnes « normales » évoluant dans des environnements hiérarchisés se retrouvent souvent piégées dans une sorte de variante pathologique de la dynamique sadomaso. Le dominé lutte désespérément pour obtenir une bénédiction qu'il va attendre longtemps, voire indéfiniment, tandis que le dominant se donne de plus en plus de mal pour asseoir sa domination dont l'un et l'autre savent qu'elle est mensongère. En effet, si le dominant était réellement l'être tout-puissant, confiant et supérieur qu'il se prétend, il ne serait pas réduit à de si monstrueuses extrémités pour obliger le dominé à reconnaître son pouvoir. Naturellement, il y a une autre différence fondamentale entre les jeux de faux-semblants SM, ceux qui s'y adonnent parlent vraiment de jeu, et leur mise en scène non sexuelle dans la vraie vie. Dans le jeu, tous les paramètres sont soigneusement définis à l'avance par consentement mutuel. Les deux protagonistes savent qu'ils peuvent interrompre le jeu à tout moment en prononçant un mot magique sur lequel ils se sont mis d'accord. Par exemple, dites simplement le mot « orange » et votre partenaire cessera immédiatement de déverser sur vous de la cire brûlante. Quittant son costume de marquis lubrique, il redeviendra un être soucieux de s'assurer que vous ne souffriez pas réellement. D'ailleurs, le dominé tire en grande partie sa jouissance de la bonne conscience de pouvoir provoquer cette métamorphose quand bon lui semble. Ainsi, les romans d'amour mettent souvent en scène un personnage masculin séduisant qui nous est d'abord dépeint comme cruel et insensible, mais dont on découvre au fil des pages qu'il est un honnête homme au grand cœur. On pourrait dire que la pratique BDSM, vue sous l'angle de la femme soumise, fait de la possibilité d'une telle transformation un élément structurel du rapport, de surcroît contrôlé par elle. Voilà ce qui manque dans les situations sadomasochistes de la vraie vie. On ne peut pas dire « orange » à son boss. Les chefs ne définissent jamais à l'avance les types d'infractions pour lesquelles un employé risque de se prendre un savon. Et quand Annie se fait réprimander et humilier, elle sait qu'il n'y a rien qu'elle puisse dire pour que cela cesse. Il n'y a pas de mot magique. Ou alors, il y en a peut-être un, « je démissionne ». Mais il ne fait pas qu'interrompre le scénario de l'humiliation. Il met fin à toute la relation de travail. Ce faisant, il vous entraîne dans un type de jeu bien différent. Celui où vous êtes condamné à errer dans une quête désespérée de nourriture et à imaginer des stratagèmes pour tenter d'éviter qu'on ne vous coupe le chauffage.